La chute du cours de l'or est-elle enfin terminée? Cette chute de 30% depuis le record historique établi à la fin du mois de janvier dernier, cette chute de 55% pour le cours de l'argent métal depuis son record établi à la fin du mois de janvier dernier, faut-il enfin revenir à l'achat? Quel prix revenir à l'achat? Quels sont les fondamentaux qui vont décider du bon timing pour revenir à l'achat sur l'or? Et puis, y a-t-il vraiment des banques centrales d'Asie qui, au moment le plus chaud des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ont-elles revendu un peu de leur or pour, par exemple, soutenir leur taux de change? Car vous savez, j'en ai parlé beaucoup dans mes émissions Fast and Forex, ces devises émergentes qui d'ailleurs depuis rebondissent, c'était une des conséquences immédiates à envisager de l'évolution plutôt favorable de la situation géopolitique entre les États-Unis et l'Iran, mais pendant la période la plus dure, est-ce que ces banques centrales ont vendu de l'or ou non? Vous avez pu lire ci et là dans certains articles de presse que c'était une possibilité. Et rassurez-vous, puisque le tout dernier rapport publié par le World Gold Council, qui est l'association mondiale des compagnies minières d'or, des mines d'or, et qui ils font beaucoup de recherches sur les fondamentaux de l'or, vous verrez que non. Les banques centrales continuent d'acheter et les banques centrales vont continuer d'acheter. Alors, moins 30% pour l'or depuis son record de janvier. Ça pique quand même pour ceux qui ont payé en janvier. Moins 50% pour l'argent. D'ailleurs, rappelez-vous. Puis fin janvier, je vous dis l'argent, moi ça m'intéresse à $50. Assez faible. Il s'en est approché. Et on vient de $120, les amis. Alors, moi je vous avais dit que à $50, j'achetais l'argent. Enfin, entre 50 et 55. Est-ce que je confirme? Est-ce que je confirme pas? Je vous avais dit, moi, que je commençais à m'intéresser à l'or sous les 4000. Il y est passé. Alors, est-ce que j'y reviens maintenant ou pas? Bon, on va faire plein de choses dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Tellement de choses que je suis obligé de noter mes petites notes, de noter mon plan. Alors, première partie, donc oui, je vais reprendre avec vous les signaux techniques. Je vous ai fait une vidéo fin mai en vous expliquant, en faisant une liste des signaux techniques de faiblesse de l'or. Tous, ils ont tous fonctionné. Ça a sérieusement droppé depuis fin mai. Donc, j'en reprends certains. C'est pas pour dire ça a marché, j'ai eu raison, peu importe. C'est pour voir si les objectifs ont été faits. Et puis reprendre aussi des structures pour comprendre un peu. Et en fait, ces structures baissières qu'on pouvait voir en avril-mai, du coup, est-ce qu'elles s'épuisent? Est-ce que c'est terminé? Ouais, c'est ça l'intérêt de reprendre. Hein. C'est pas du tout, je l'avais dit, je l'avais pas dit. On s'en fiche complètement, quoi. Bon, alors, ensuite, quand revenir à l'achat? À la fois, selon des considérations d'analyse technique, et selon des considérations de corrélation fondamentale et de perspective fondamentale. Vous allez voir, en réalité, souvent je vous en liste beaucoup, mais il n'y en a que deux ou trois qui comptent vraiment. Peut-être même que deux qui comptent vraiment pour l'or. Donc, bon, on peut toujours écrire des dossiers de 50 pages sur les fondamentaux de l'or. Je vais vous montrer, moi, les seuls qui comptent, et c'est ça qu'il faudra surveiller. Alors, justement, je vais revenir sur ce rapport du World Council sur les banques centrales pour vous rassurer sur ce sujet. C'est complètement faux et archi-faux. Peut-être que ça a été marginal, peut-être que certaines banques centrales d'Asie ont dû séparer un peu de leur or pour soutenir leur devise, mais c'est pas officiel. D'ailleurs, si c'est elles l'ont fait, il n'y aura jamais de déclaration officielle. Parce qu'officiellement, elles continuent, elles envisagent toujours d'acheter de l'or. Donc, oui, les replis de l'or, bien sûr, se payent. Pour autant, toute la phase haussière qui a eu lieu entre 2024, cette phase verticale entre début 2024 et début 2026, elle est terminée. Ça, vous le savez. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que le régime technique a changé. Mais même si on est en trading range, imaginons que l'or maintenant évolue entre 3500 et 5000. Bon, ça s'achète quand même entre 3500 et 4000, du coup. Voilà. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça s'achète toujours sur support. Bien sûr, un mot technique sur l'argent métal, du coup. Et puis, alors, le pétrole, la normalisation technique est acquise. J'en ai déjà parlé, rappelez-vous, le marché est revenu dans le gap haussier du lundi 2 mars. Donc ça, ce sont quand même des perspectives de désinflation pour les prochains mois, et ça peut avoir un impact sur la réserve fédérale des États-Unis. Pareil, rappelez-vous, l'engrais urée. C'est fait. Retour au monde d'avant. Sur le plan d'analyse technique, c'est tout ce que je constate. Sur le plan d'analyse technique, le prix de l'engrais urée du Moyen-Orient est revenu au monde d'avant, c'est-à-dire un prix avant l'envolée qui a suivi le début des opérations militaires du 28 février. Alors, c'est un fast forex un peu complet et à 80% sur l'or. Donc, la chute de l'or est-elle terminée? Bien, c'est ce dont nous allons parler. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous.
Allez, c'est parti les amis, or en bourse, à quel prix revenir à l'achat? La chute de l'or est-elle terminée? La chute de l'or et du cours de l'argent métal est-elle terminée? Alors que les drawdowns sont importants, donc depuis le record établi à la fin du mois de janvier dernier, nous attaquons le plan que je vous l'ai donné à l'instant. Il va s'afficher à l'écrit pour qui, pourquoi, pour ceux qui aiment lire la structure d'une analyse à venir. Vous pouvez faire pause, regarder le plan. Et si une partie vous intéresse plus que l'autre, vous dirigez vers la barre de temps de YouTube. Et comme j'ai tout chapitré, vous pouvez accéder à la partie de votre choix. Alors, je vais me lire. La chute de l'or va-t-elle prochainement se terminer sur le marché des matières premières, commodities? Pourquoi l'or a-t-il autant baissé depuis la fin du mois de janvier? Alors, vous connaissez déjà beaucoup de raisons si vous suivez mes vidéos, bien sûr. Mais à mesure que le temps passe, on affine, on voit vraiment ce qui compte. Alors, un certain monsieur, Gann, a des choses à vous dire sur l'or, sur l'argent, mais aussi sur le pétrole et l'urée en bourse. Alors, soyez bien attentifs. Bon, eh bien, maintenant que j'ai votre attention, c'est parti. Or, XAUUSD, mon scénario technique était le bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si mon scénario technique était le bon, si les patterns techniques d'épuisement avaient bien été identifiés, l'idée, c'est donc qu'elles ont bien fonctionné. Et ces patterns, en fait, elles ont des objectifs de cours, en fait. Elles ont des targets. L'idée de savoir, est-ce que ces cibles ont été faites? Et ça permet d'envisager, au-delà des niveaux de support, s'il est temps ou pas de revenir à l'achat sur l'or. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par ça. C'est-à-dire, nous n'allons pas tout passer en revue, puisque, souvenez-vous, fin mai, donc, je vous avais proposé ce slide. Et à l'époque, j'avais passé en revue tout le contenu du tableau. Je vais regarder les 4-5 premiers parce que ce sont les graphiques de long terme. Et chers amis, je vous jure, les signaux techniques des graphiques de moyen long terme. Beaucoup pensent, parfois, des détracteurs de l'analyse technique me disent « Mais de toute façon, l'analyse technique, ça marche qu'à court terme. » Moi, je dis « Faux !» C'est incroyable comment certains graphiques de moyen long terme, l'horizon de temps hebdomadaire et l'horizon de temps mensuel, sont en capacité de donner des timings parfois qu'on voit que tous les 4-5 ans. C'est monstrueux, c'est magique. Jamais l'analyse fondamentale ne fait ça. Elle crée des mouvements. Jamais elle donne des zones de prix comme ça. À la fois des objectifs de cours, mais aussi des gros supports. Donc plus vous regardez un graphique sur l'horizon long terme, et voire même pourquoi pas le monthly chart, le graphique avec la représentation en données mensuelles, plus vous pouvez identifier des zones d'entrée, mais aussi de sortie exceptionnelles. Et peut-être que parfois vous ne verrez ça pas plus que 4 ou 5 fois dans votre vie, puisque certains signaux ne reviennent que tous les 5-10 ans. Voilà. Alors, je vous souhaite bien sûr de vivre très longtemps. Mais à un moment ou à un autre, vous aurez peut-être autre chose à faire que d'investir en bourse. Bon. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'analyse technique déploie sa puissance sur les graphiques de moyen long terme. Et donc justement, il y avait un certain nombre de signaux. Alors, par exemple, le RSI mensuel était sous une résistance vieille de 40-50 ans. C'est pour ça que je vous dis que parfois, c'est un signal que vous allez voir peut-être une seule fois dans votre vie. Attendez, on va reprendre ça. C'était un signal, c'était une des vulnérabilités techniques, le RSI mensuel. Alors, on va le reprendre sur le cours de l'or, je reviens. Donc là, je suis sur un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l'or. Et donc, effectivement, en avril dernier, en début d'année, donc au premier trimestre 2026, le RSI mensuel était revenu sur des niveaux de 1973 et 1968, des niveaux de rejet de 1968 et 1973. Là, c'était donc au premier trimestre 2026. Peut-être, les amis, je ne sais pas quel âge vous avez, je vous souhaite de vivre très longtemps, mais peut-être que vous ne reverrez jamais de votre vie actuelle, sauf si vous vous réincarnez après, ce signal. Donc, c'était un énorme signal. Et cette résistance mensuelle, et bah, du coup, voilà, le marché fait moins 30. Donc depuis, le RSI est sorti par le haut de la zone de survente. Alors je vous dis, ce sont des signaux avec des objectifs. Quand on sort comme ça, l'idée c'est de viser au moins la neutralité, le niveau des 5 ans sur le RSI mensuel. On n'y est pas encore, on y sera peut-être le mois prochain. Nous ne sommes pas encore. Donc ça c'était magique, enfin magique, incroyable. Il y avait aussi l'avalement baissier mensuel. Qu'est-ce que c'est? C'est une structure, donc c'est la terminologie japonaise. C'était l'avalement baissier mensuel, l'avalement de corps, la bougie de mars 2026. Boum! C'est quoi son objectif? vous reportez l'amplitude de l'avalement au point de cassure. Donc, il y avait 5 200 $, 4 600 $. Donc, ça donnait une différence de 600 $. Donc ça, sa cible théorique, c'était 3008, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. C'était 4000, quoi, en gros, bah, c'était 4000. Mais, ah bah, c'est incroyable, c'est fait. Je suis en temps réel sur le graphique, c'est fait. Une première target est faite. Attention, ce sont des targets théoriques, on peut faire un peu plus, un peu moins, peu importe. La cible est faite, de l'avalement, elle est faite. Voilà. Donc, il y avait des choses, mais attendez, on va regarder d'autres éléments que j'avais listés. Qu'est-ce que j'avais listé? Les objectifs d'extension technique étaient faits, et il y avait une cassure de Kijun hebdomadaire et une divergence baissière hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, là. Nous allons reprendre ça, c'est pas le bon graphique, voilà, donc je reviens ici. Donc, il y avait une divergence baissière hebdomadaire, elle était superbe, sur les sommets d'octobre 2025 et février 2026. Donc, là, l'idée, c'est d'aller au moins en zone de survente, on y est presque en mensuel, hein, pour dire que la target est faite. Ensuite, les objectifs techniques de long terme étaient faits, effectivement, ça on le voit, en données mensuelles, les fameuses targets théoriques de vague 5. Alors, oui, on avait plusieurs. Oui, on est rentré dans l'intervalle. Il n'empêche, elles étaient faites. Et là, on le voit bien, l'avalement baissier mensuel, qui d'ailleurs rappelle exactement ce que fut le top de marché en septembre 2011. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des signaux sur les graphiques de moyen long terme. Parfois, faut attendre 10 à 15 ans pour les revoir. Donc, quand ils arrivent, mieux vaut ne pas les ignorer. Voilà. Donc ça, et donc voilà. Donc, c'était moi, si vous voulez, une liste de j'avais listé d'autres choses. Ah oui, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Que si on casse la moyenne mobile à 200, ça va accélérer à la baisse. Reprenez ma dernière vidéo sur l'heure fin mai. Je vous ai dit, si le marché brise la moyenne mobile à 200 jours, il développera davantage sa correction. Il a brisé le vendredi 5 juin. Il a brisé le vendredi 5 juin. Sa moyenne mobile à 200 jours. Et il a perdu 500 $ dans la foulée. Et en fait, le marché répète exactement des schémas correctifs qu'il a pu proposer dans le passé, suite à des grandes phases haussières, cassure de la SMA 200. Vous voyez, on rentre dans un gros range. La SMA 200, la dernière fois qu'on l'avait dépassée à la hausse, c'était en octobre 2023. Il y a eu une hausse de octobre 2023 à janvier 2026. Et là, on est dans une phase corrective. Voilà. Donc, c'est pas que l'or n'a plus aucune raison de monter. C'est tout simplement que l'or, il y a bien sûr des choses qu'il faut reculer, c'est notamment le rebond du dollar et des taux d'intérêt. J'arrive sur les fondamentaux, mais au-delà de ça, sans trouver de raison, c'est juste vous allez voir, en fait, ce sont des prises de profit. Il n'y a personne qui short l'or. Attention, je vais vous montrer les datas. Personne ne short l'or. Les banques centrales achètent encore, les gérants vont acheter aussi encore. Simplement, ils prennent leur profit, c'est du deleveraging. Donc, parfois, on pose la question, je ne comprends pas pourquoi l'or baisse, le Moyen-Orient, etc. Peu importe. En bourse, ce ne sont que des cycles. Parfois, un actif a encore toutes les bonnes raisons de monter, mais si il est monté trop haut, il est trop cher et qu'il a besoin, parce que son cycle au court moyen terme devient correctif, de corriger, il corrigera. Et puis, plus tard, son cycle long reprendra le dessus. Ce sont des arbitrages, des prises de profit. Ben, regardez, je vous montre le cote report, le positionnement institutionnel sur les contrats d'options et contrats à terme de gold. Il n'y a pas d'augmentation des positions short. Même au contraire, elles baissent. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ça baisse? Il n'y a pas de position short. Parce qu'il y a une réduction des positions longues. Regardez l'histogramme bleu. Il y a une diminution des positions longues. Donc en fait, quand vous avez un prix qui baisse. Donc là, l'or depuis son record de janvier, il a fait moins 30. Les moins de 30% de l'or de baisse, c'est pas des gens qui vendent. C'est pas des gens qui vendent agressivement. Ils sont pas short sellers. Donc c'est pas une vente agressive qui joue contre les fondamentaux de l'or. C'est une diminution des achats. Une prise de bénéfice. Parce que une prise de bénéfice pour sécuriser des gains, parce qu'un gérant, lui, gagne de l'argent quand il fait les gains. Et pourquoi? Parce que ça monte depuis 4 ans. Voilà. Donc, c'est bien ça qui... C'est très important d'étudier le positionnement pour bien distinguer une vente, une baisse qui serait une vente pour sanctionner des fondamentaux, d'une baisse de 30% qui est en fait une phase de prise de profit d'investisseurs qui ont acheté il y a 4-5 ans et qui gagnent la terre, qui se blindent et qui étaient blindés. Alors oui, bah ceux qui sont arrivés là, qui ont acheté en novembre, en décembre dernier, en janvier, février, parce que le Moyen-Orient, parce que l'Iran, je comprends pas, j'ai acheté l'or, je me fais éclater, je perds 20%, ouin ouin. Bon, bah. Je vous dis ça, je leur dis à ce moment-là simplement, mauvais timing. Vous êtes entré dans l'euphorie en bourse. Les tops se construisent toujours dans l'euphorie, les bottoms dans le peur, le pessimisme et la capitulation. Là, c'était la phase d'euphorie finale en début d'année. Et moi, d'ailleurs, je connais quelqu'un, je me rappelle, c'est assez triste, mais quand l'argent a accéléré au-dessus des 100 dollars, je me rappelle, en début d'année, il me dit, je viens d'acheter l'argent, c'est incroyable, etc. Ça va contre le dollar, c'est pour me couvrir contre l'inflation, etc. Et, alors qu'il n'avait jamais passé un ordre de sa vie en bourse. C'est typiquement ce qu'on observe en phase finale de hausse. Les newbies arrivent en phase d'euphorie et se font déchirer ensuite. Comme ceux qui souscrivent aux introductions en bourse, comme j'ai pu vous montrer dans le Top Gun, en général, dans les mois qui suivent, se font déchirer. Mieux vaut attendre une correction pour se placer. Alors, cela étant dit, maintenant, l'idée, c'est l'or, ça reste l'or. Il y a des, bien sûr des bonnes raisons fondamentales. Il finira par stabiliser. Et donc, alors, il faut essayer d'envisager à quel prix. Voilà, donc là, il y avait un certain nombre de choses. Donc, la moyenne mobile à 200 jours, voilà, bah, là, je l'avais mis en pivot cyclique. Donc, le marché est passé en dessous. Donc voilà, il y a eu effectivement la baisse depuis la moyenne mobile à 200 jours. Alors, cela étant dit, or, quand revenir à l'achat et à quel prix? Parce que oui, bien sûr que la tendance de fond de l'or est archi bullish. Et toutes les bonnes raisons de la rester, vous allez voir l'étude des banques centrales que je vais vous montrer plus tard dans cette vidéo. Or, quand revenir à l'achat et à quel prix? Déjà, oublions l'analyse technique. Il y a plein de fondamentaux qui influencent la tendance de l'or. La demande physique, donc industrielle, en joaillerie, la demande aussi des banques centrales, la demande financière ou financière via les ETF, les contrats à terme, les contrats futurs, les contrats d'options, etc. Parmi tous ces fondamentaux, trois font la pluie et beau temps. Les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. J'ai fait une vidéo Top Gun récemment sur ce sujet. Vous avez vu les chiffres de l'inflation la semaine dernière. Ça va être le sujet qui va nous occuper tout l'été. Est-ce que la Fed va monter les taux à la rentrée ou pas? Le dollar américain, puisqu'il y a une corrélation inversée entre la tendance du dollar américain et la tendance de l'or, ne serait-ce que parce que, pour une raison simple, déjà, beaucoup de banques centrales achètent de l'or pour réduire leurs réserves de change en dollars, et aussi parce que quand vous interrogez les investisseurs institutionnels américains qui investissent sur les ETF gold américains, qui sont les plus importants du monde en asset under management, en AUM, ils vous disent « nous achetons des ETF gold pour nous couvrir contre la baisse du dollar quand le dollar baisse ». Or, le dollar rebondit depuis le début d'année. Et sur les ETF américains, vous avez des outflows depuis le début de l'année. Donc, en clair, il faudra revenir à l'achat sur le gold. Quand le risque d'une hausse de taux de la Fed sera écarté, quand le dollar aura cessé son rebond et quand vous observerez un retour des inflows sur les ETF gold US. Donc, j'illustre mon propos avant de vous donner quelques considérations techniques. Alors déjà, l'or, je vous rappelle que l'or en market cap, il est monté carrément à 40 trillions de dollars. 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards de dollars, il est monté à 40 000 milliards de dollars. Là, il retombe à 27 000 milliards de dollars. C'est toujours nettement plus gros qu'Nvidia, qu'Apple, que Google, que l'argent. Et attendez, il y a même SpaceX qui a fait son entrée à la 9e place dans les plus importantes capitalisations boursières mondiales. Donc déjà, si l'or a corrigé de 30%, parce qu'il était déjà sacrément valorisé. Ensuite, l'or fera son bottom quand le marché aura une visibilité enfin sur les perspectives de politique monétaire de la Fed. C'est-à-dire que, si vous voulez, des taux d'intérêt qui augmentent, les taux d'intérêt nominaux qui augmentent créent un arbitrage défavorable à l'or parce que l'or ne rapporte rien. L'or ne rapporte pas d'intérêt, à la différence, par exemple, du marché obligataire. Et des taux d'intérêt qui montent, c'est le rendement des obligations qui augmente, c'est donc un déplacement des capitaux en défaveur des actifs qui ne rapportent rien, à part leur prix, l'or, et vers des actifs qui rapportent à la fois leur prix et aussi un taux d'intérêt connu à l'avance. Donc là, le marché est très hésitant sur la politique monétaire que va adopter la Fed, notamment lors de sa décision de politique monétaire du 16 septembre et du 28 octobre. Et pour que l'or vraiment stabilise, il faut absolument que la Fed soit au minimum dans un statu quo. L'autre aspect des choses, c'est bien sûr la tendance de fond du dollar américain. Je vous renvoie vers le Fast and Forex que je vous ai proposé la semaine dernière sur le dollar américain, en vous expliquant qu'il était donc à la croisée des chemins techniques. Et il est évident que si le dollar fait le choix d'aller ici, l'or n'a pas fini de baisser. Si le dollar fait le choix d'aller ici, où ira l'or? L'or ira chercher mes fameux 3400 dollars, le A égale C, et surtout 3400 dollars fut le prix, l'ancien record de 1980, mais retraité de l'inflation. Parce que le record de 1980, c'est 900 dollars, mais lorsqu'on ajuste ça de l'inflation, en fait, ça donnait 3400. Donc, effectivement, moi, alors, c'est vrai, moi, je vous ai dit, pour moi, l'or allait passer sous 4000. Donc, il est passé sous 4000. Maintenant, va-t-il aller à 3400? Je suis pas sûr, parce que alors, ce serait le niveau d'entrée pour moi parfait. Ça va bientôt être survendu en données hebdomadaires. Donc, moi, je pense que quand on va être survendu, on va peut-être commencer à faire des divergences. Le marché est quand même un peu loin des 3004. Il faudrait vraiment un scénario extrême. Je pense qu'on peut stabiliser avant. D'ailleurs, je vais revenir ici sur le graphique en données mensuelles et mettre l'Ishimoku. Et vous avez la Kijun mensuelle qui est à 3950 dollars. Et vous avez, regardez, en données journalières, vous avez cette zone de prix, là, cette bande de prix qui est justement 3008-3009. Il est possible que cette zone de prix stabilise le marché avec en plus un RSI sur 50. Le stabilise au moins à court terme, parce que là, on va être survendu en mensuel, en weekly et en daily. D'un moment à un autre, voilà, je pense que effectivement, nous ne sommes pas loin d'une phase de stabilisation. Donc je vous dis 3880, 3900 dollars. Ce niveau, pour l'instant, quand j'enregistre la vidéo, est préservé. S'il s'avère qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, ou au moment où je vais la publier, parce qu'il y a toujours un décalage entre mon enregistrement et ma publication, s'il s'avère que cette zone est enfoncée, il y aura une seule raison à ça, c'est le dollar qui continue de pousser. Et si c'est le cas, s'il pousse son avantage, l'or ira à 3400, 3500 dollars. Donc vraiment, c'est le dollar américain. Vous savez, lorsque vous regardez les ETF, donc déjà, depuis le début de la... Je vous rappelle que les ETF des États-Unis sur l'or sont les plus importants du monde avec 303 milliards d'assets under management. Toute l'Europe, c'est 210, toute l'Asie, c'est 78. Vous faites l'addition de l'Europe et l'Asie, ça n'atteint pas les ETF américains. Donc les ETF américains font la pluie et le beau temps. Depuis le début de l'année, il y a des outflows des ETF américains. Sur le trimestre, il y a des outflows sur les ETF américains. On le voit très bien ici, Amérique du Nord, c'est le bleu foncé. Et donc depuis début mars, ce sont régulièrement des sorties de capitaux. Depuis début mars, ce sont des sorties de capitaux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe depuis début mars? Eh bien, le dollar américain a rebondi de 6%. Voilà. C'est vraiment en corrélation inversée avec le dollar américain. Alors, si vous voulez, en fonction des perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, en fonction des chiffres macroéconomiques qui sont publiés aux États-Unis, cela va avoir un impact sur les anticipations liées à la Fed, une hausse de taux en septembre ou le statu quo jusqu'à la fin de l'année. Derrière, c'est le choix que va faire le dollar américain par rapport au pivot technique que je vous ai décrit dans mon Fast and Forex. Et derrière, c'est le choix que fera l'or. Le choix que fera l'or entre soit scénario 1, stabilisé sur 3880 dollars, 3900 dollars, les niveaux de support que je vous ai montrés, et commencer un rebond ou une stabilisation, briser cette zone des 3880 dollars, 3950 dollars, avec un dollar US qui casse une résistance, il n'y a plus grand chose en fait avant 3500 dollars, qui là pour le coup est un niveau qui tiendra, sur lequel moi j'y vais avec toute confiance, peu importe les fondamentaux, tellement il s'agit d'un gigantesque et énorme niveau technique, les 3400, 3500 dollars. Mais franchement, je pense pas qu'on va y aller, ça commence à vraiment être sérieusement survendu. Et donc, je vous rappelle, hein, donc, ce ne sont pas des shorts agressifs de l'or, c'est du deleveraging, ce sont des prises de profit. Donc, tout ça, c'est très simple. Quand vous avez un actif qui perd 30% parce que ce sont des prises de bénéfices, c'est beaucoup mieux que perdre 30% d'avoir une explosion des positions short à effet de levier. Là, ce serait il faudrait commencer, effectivement, à s'interroger. Je continue. Central Bank Gold Reserve Survey, les banques centrales ne vendent pas. Donc ça, c'est important. Les banques centrales ne vendent pas. C'est l'enseignement du tout dernier rapport publié par le World Gold Council. Et en réaction à beaucoup d'articles de presse qui disaient que l'Asie vendait son or pour soutenir ses devises face au dollar, etc. Ça a peut-être été fait très marginalement, mais il y a une étude qui a été faite par le World Gold Council, justement, qui a été faite par le World Gold Council auprès de 76 banques centrales entre le 5 février et le 19 mai. Auprès de 76 banques centrales entre le 5 février et le 19 mai. Donc en plein cœur de cette période justement de crise géopolitique, et les enseignements de cette étude, c'est que non seulement les banques centrales ont augmenté, ont accéléré leur accumulation d'or, c'est que les perspectives sont positives, que 89% des banques centrales estiment que les réserves d'or mondiales vont encore augmenter au cours des 12 prochains mois, 45% des banques centrales disent qu'elles vont augmenter leurs propres réserves d'or au cours des 12 prochains mois. Elles rappellent que leur motivation essentielle, c'est justement le dollar américain. Donc au final, c'est probablement le facteur fondamental majeur de corrélation, la tendance du dollar américain par rapport à la dynamique globale que va donner l'or. Donc oui, clairement, les banques centrales, peut-être que parfois de manière très conjoncturelle, certaines banques centrales d'Asie ont pu, par exemple, pour soutenir leur devise face au dollar américain, utiliser un peu de leur or, mais au final, en termes de tendance de fond, elles ont toutes les bonnes raisons de continuer d'accumuler de l'or. C'est pour cela que, si vous voulez, des retours sur support technique majeur doivent toujours donc être mis à profit sur le cours de l'or. L'argent métal, alors rappelez-vous, l'argent métal, je vous ai, depuis le début de l'année, dit « moi, j'achète à 50 dollars ». Alors, j'affine, j'ai une zone dite de DCA, DCA pour « dollar cost averaging », comprise entre 47 dollars et 54 dollars. Alors, où en est-on sur le cours de l'or au moment où j'enregistre cette vidéo? Eh bien, le marché a fait un plus bas à 55 dollars. Donc, je vous rappelle que ce niveau des 50 dollars, en fait, est un niveau énorme. Regardez, c'est le record de 1980, le record de 2011. Ce point-là. Et donc là, on y retourne. C'est là, si vous voulez, 49 dollars. C'est là où je rentre avec toute confiance. C'était là, regardez, le niveau du RSI qui avait presque rejoint son niveau de 1979, sorti par le bas de la zone de survente. Donc là, pareil, il faut attendre au moins le niveau des 50 sur le RSI mensuel. Voilà, la zone, donc là aussi, regardez, la cassure de la moyenne mobile à 200 jours, qui a donc déclenché l'accélération baissière. Et là, une zone vraiment de prix qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est celle qui est entre 47 et 57 dollars. Donc vous voyez, ça c'était le support. 47, c'était le cours de clôture ici en mensuel. 47 et 57 dollars. Voilà, 47 et 57 dollars. Là, c'est une zone de prix, je pense, qui peut stabiliser le cours de l'argent. Ce sera bientôt survendu sur tous les horizons de temps. Donc voilà, tout ça. Et bien sûr, là aussi, il y a une corrélation avec l'or, une corrélation avec inversée avec le dollar américain, etc., etc. Pétrole, normalisation technique en cours. Peut-on parler d'un retour au monde d'avant? Ce que l'on peut dire sur le pétrole. C'est une émission sur l'or, donc je vais être rapide sur le pétrole. Rappelez-vous cette cartographie technique que je vous ai montrée depuis la fin du mois de février dans mes émissions Fast and Forex, vous expliquant que au-dessus de 92-94 dollars, c'était le choc inflationniste, l'alerte rouge au-dessus de 95 dollars, la normalisation sous 80, le retour au monde d'avant consiste en un retour dans le gap haussier qui a été ouvert ici le lundi 2 mars. Quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes revenus sur le... Alors, il n'est pas comblé encore. Peut-être qu'on l'aura comblé d'ici ma publication, mais nous sommes revenus dans le gap. Ce qui signifie que ces 3-4 prochains mois, il va y avoir une baisse de l'inflation nominale. Donc ça, ce sont des choses quand même intéressantes. Il y a selon le Cote Report, il y a aussi une augmentation des positions short, une augmentation des positions short. Alors bien sûr, l'actualité géopolitique, etc., ça va continuer d'impacter le prix du pétrole. Mais voilà, c'est, il n'empêche que d'un point de vue technique, on pourra vraiment, allez, le vrai retour au monde d'avant, ce serait repasser sous le gap. Le vrai retour au monde d'avant, ce serait s'installer entre 60 dollars et 67. Voilà. Là, si vous avez vraiment, sur le Brut US, un prix qui rentre en range entre 60 dollars et 67 dollars, on pourra parler à ce moment-là d'un véritable retour au monde d'avant sur le prix du pétrole. Et je vais terminer cette présentation en vous montrant que, en ce qui concerne l'engrais urée, eh bien, c'est fait. Nous sommes revenus donc sur des prix d'avant. Donc, pour l'engrais urée, je vous rappelle qu'il y en a plusieurs. Il faut s'intéresser à l'engrais urée du Moyen-Orient. Granular, rappelez-vous, je vous ai montré, c'est des petites billes blanches. Et voilà, ici, c'était le lundi 2 mars, la cassure haussière. Et regardez, on est là. Nous sommes revenus ici. Voilà, donc, retour au monde d'avant sur l'engrais urée. Retour au monde d'avant. Les opérations militaires qui avaient commencé là, on est repassé en dessous. Donc voilà, là, au moins, là-dessus, c'est fait. Là-dessus, c'est fait sur sur l'engrais urée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas ignorer. Maintenant, ça va prendre du temps pour avoir un impact sur l'inflation, etc. Rappelez-vous, hein, la hausse de toutes ces matières premières, ça a mis un mois, deux mois à impacter les taux d'inflation à la hausse. Maintenant, pour que ça impacte les taux d'inflation à la baisse, il va falloir aussi être un peu patient. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se sont normalisées. Voilà, chers amis, eh bien, je vous laisse avec ce graphique sur les ETF Gold. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.